VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Violence en République démocratique du Congo, 3 membres d'une équipe anti-Ebola ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une attaque contre une base des employés engagés dans la riposte contre la fièvre hémorragique à Biakato, localité de la province de l'Ituri dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source onusienne. Le personnel décédé, un employé du ministère congolais de la Santé et 2 chauffeurs. Il y a aussi 5 blessés et 1 disparu suite à cette attaque. Une autre incursion contre le personnel anti-Ebola a été repoussée à Mangina, également en Ituri. L'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé et ses partenaires soignent les blessés et mettent d'autres membres des équipes anti-Ebola en sécurité, a précisé l'OMS sur son site Twitter en RDC. L'OMS est le partenaire du ministère congolais de la Santé dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays. RDC toujours, dans la province voisine du Nord Kivu, au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des rebelles des ADF près de la ville de Beni. Cette région est secouée depuis une semaine par les protestations violentes des habitants qui dénoncent ce qu'ils appellent la passivité des autorités congolaises et de la MONUSCO, la mission onusienne sur place, face aux tueries. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce dernier massacre a eu lieu à 30 km au nord de Beni, à l'entrée d'une zone appelée le Triangle de la Mort, en raison des tueries qui s'y déroulent depuis plusieurs années. Un porte-parole de la force onusienne a indiqué que la MONUSCO a envoyé hier une force d'intervention rapide avec des militaires congolais. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York avance un bilan de 99 personnes tuées dans la région de Beni depuis le 5 novembre. Les auteurs de ces tueries sont dans l'immense majorité des cas des membres du groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées. En réponse à ces tueries, la région de Beni est agitée depuis une semaine par des manifestations anti-ONU qui ont fait au moins 7 morts depuis samedi. L'ONU a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'un manifestant congolais tué mardi lors d'un face-à-face avec des casques bleus.
Violence dans le Sahel maintenant. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a exhorté le Mali et le Burkina Faso mercredi à agir plus au plan politique pour rétablir la stabilité dans les territoires secoués par les violences djihadistes et intercommunautaires. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Ce qui me paraît encore le plus important maintenant, c'est encore plus d'action politique, a-t-il déclaré devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale après la mort de 13 militaires français lundi dans une opération anti-djihadiste au Mali et sur fond de flambée de violence dans les deux pays. Un accord de paix avec les rébellions qui s'étaient soulevées en 2012 a été signé en 2015, mais son volet sur le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes peine à être appliqué. Plus de politique aussi pour faire en sorte que la mise en œuvre de la force conjointe du G5, Mali, Mauritanie, Niger, Burkina et Tchad, soit concrétisée, a poursuivi Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française s'est également inquiété, je cite, de la manière dont la désinformation puisse se faire singulièrement au Burkina et au Mali depuis peu. Il y a une vraie bataille de communication à mener, une vraie campagne d'explication pour éviter le développement de fausses informations, fin de citation. Les troupes étrangères au Sahel, notamment celles de la force française Barkhane, font face à un rejet apparemment grandissant chez les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
Au Bénin, le gouvernement a ordonné à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter le territoire national. Les autorités béninoises accusent ce diplomate d'activités subversives et d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Les autorités béninoises ont donné jusqu'au 1er décembre à Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne à Cotonou, pour partir du Bénin. Nous déplorons que cette coopération entre le Bénin et l'Union, qui se porte très bien et qui est incontournable, ait été perturbée par les activités de ce diplomate qui se laisse aller à des activités que nous pouvons considérer comme subversives, a déclaré le porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à son devoir de réserve, a-t-il indiqué. Le gouvernement l'accuse de s'ingérer beaucoup trop dans les affaires intérieures et de ne pas respecter son devoir de réserve de diplomate. La presse béninoise a fait état d'une rencontre récente entre M. Net et des représentants d'un groupe d'opposition de l'ancien président Boni Yayi. La délégation de l'Union européenne à Cotonou n'a souhaité faire aucun commentaire. À Bruxelles, on se dit extrêmement surpris de cette décision, assurant ne pas connaître les raisons spécifiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. Les Américains célèbrent aujourd'hui la fête de Thanksgiving, la journée d'action de grâce. Cette célébration désormais laïque en Amérique du Nord a lieu le 4e jeudi de novembre et se fête généralement en famille. La plupart des entreprises et des administrations sont fermées ce jour-là. À Washington, la capitale, cela fait 25 ans qu'une famille africaine a décidé de donner un peu d'elle-même aux autres à l'occasion de Thanksgiving. Une manière d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude dans ce jour spécial de l'année. Aouzouma Compaoré.
Pour beaucoup d'Américains, la fête de Thanksgiving, c'est avant tout la grosse dinde, la famille et les amis. C'est aussi un temps de gratitude pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Eddie est une habitante du quartier.
Je suis ici pour célébrer Thanksgiving avec le quartier, dire merci pour la famille et juste le fait d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y participeront pas cette année.
Pour les Hirono, au-delà d'être un moment de réflexion, c'est également une opportunité de servir les moins fortunés. Emmanuel Hirono, président de la Fondation TIS et de Motir Service.
Il y a ceux qui ont faim, ceux qui sont moins chanceux et vivent dans le chaos. Les problèmes de santé mentale sont frustrés ou veulent se tuer, mais nous les réunissons, nous nous asseyons et partageons un repas avec eux en leur montrant de la dignité et du respect. Poser des actes d'amour et de compassion et donner un peu de vous-même, cela fait toute la différence.
Depuis 5h du matin, l'armée de volontaires, mise sur pied par Emmanuel Hirono et son épouse Jay, à travers leur fondation, ne ménagent aucune énergie pour s'assurer que tout le monde ait un repas de Thanksgiving. Comme chaque année depuis 25 ans, la Fondation TIS offre gratuitement des dindes et le nécessaire pour concocter un délicieux repas de famille. Cette année, 800 dindes au total sont offertes en cadeau à la communauté. Joanne est une habitante du quartier.
Je cuisine pour ma famille chaque année. Je vais donc rentrer à la maison pour cuisiner tout ça pour ma mère, mes cousins, mes nièces, mes petits-enfants, ma fille, mon fils, en fait toute la famille.
Nous ne venons pas simplement donner de la dinde, nous voulons apporter de la compassion, de la famille et de l'éthique. Asseyons-nous, mangeons et communions ensemble. Nous voulons vous connaître afin que vous puissiez nous connaître. Je ne considère pas l'argent comme étant la solution à tout, mais plutôt quel impact social nous avons dans la vie des gens, de sorte à transformer leur vie.
Shelia Bryant est une volontaire, elle est également politicienne.
Il fait des choses absolument nécessaires pour la communauté. Pour certaines personnes qui tombent entre les mailles du filet, il est comme une soupape de sécurité. Il offre des formations professionnelles. Regardez cette ligne avec des personnes qui reçoivent gratuitement de la nourriture, de la dinde et un dîner de Thanksgiving. C'est un homme extraordinaire et cela lui vient du cœur. Il est sincère dans tout ce qu'il fait pour la communauté.
Pour l'homme d'affaires natif du Nigeria, ce moment de partage est doublement précieux. Car si aujourd'hui il a du succès, c'est en partie grâce à cette communauté.
Il y a un grand fossé entre l'Afrique et les Afro-Américains. Et le don de Dieu est de savoir que nous sommes tous Africains, peu importe d'où nous venons, il est important que nous nous impliquions à un niveau personnel sans tenir compte du gouvernement.
Il aura fallu près de 3 mois pour faire de ce don annuel de dinde un succès. Et ici, tout le monde est volontaire, y compris les employés de Motir Service, dont Emmanuel est le PDG.
Parce que nous avons beaucoup d'employés, nous leur enseignons la compassion. Et à cause de la compassion, ils s'impliquent. Ensuite, nous servons. C'est pourquoi je travaille aujourd'hui. Je suis chauffeur, nettoyeur, cuisinier, je fais tout. Et cela me plaît.
Et s'il y a bien une personne envers qui Emmanuel est reconnaissant, c'est son épouse.
Ma femme aime servir les gens. Je suis un entrepreneur social à cause d'elle et elle m'a appris un autre aspect de la vie que je ne connaissais pas. Et je lui en suis très reconnaissant.
Si la Fondation TIS est le bras qui donne, Motir Service est celui qui travaille et un pourcentage de ses bénéfices nets annuels est remis à des causes affectant les populations défavorisées et marginalisées. Les deux structures combinent leurs efforts pour faire la différence dans des communautés très pauvres aux États-Unis et en Afrique de l'Ouest.
Merci à Azuma Compaoré. Et pour terminer, relations États-Unis-Maroc, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo ira la semaine prochaine au Maroc, pays considéré par Washington comme un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans le monde arabe, qui inclut la normalisation des relations avec Israël. Après son arrivée à Rabat le 4 décembre, le secrétaire d'État américain s'entretiendra notamment avec le roi Mohamed VI. Merci de votre attention.